C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Salut tout le monde, on est toujours en mode estival. Et oui, j'ai encore mes culottes courtes cette semaine.
Ah oui, bah écoute, on est confortable, c'est correct ça.
On est à l'aise. Monsieur Mekena, mes hommages.
Monsieur Charrette, bonjour.
Alors, on va évidemment parler de nouvelles et on en a beaucoup cette semaine. On va peut-être attarder un peu le sujet, on va peut-être en dire un petit peu plus long. Je vous le dis tout de suite, on avait un invité qui ne s'est pas pointé. Non. Alors, mais c'est pas grave, j'ai une petite surprise pour le deuxième bloc tantôt. On va également parler essais routiers. Vous nous parlez de quoi, vous, monsieur Mekena, cette semaine?
J'ai au pic, n'est-ce pas, du prix du pétrole, j'ai décidé d'essayer une camionnette gigantesque. J'avais le Toyota Tundra. 2022, bien sûr.
Oui.
Qui a été revu de bout en bout.
Aviez-vous le moteur hybride ou le moteur non-hybride?
J'avais le non-hybride.
Ah, d'accord.
La différence n'est pas énorme, mais quand même, ça a permis de l'essayer puis de voir, effectivement, quand tu mets, écoute, des chiffres impressionnants. Tu mets plus que 200$ de gaz dans un phare.
Oui, j'ai fait ça avec le Tremor il n'y a pas très longtemps. Le F-150, très mort.
Compte
de banque était très mort, effectivement, après.
Ouais.
242$ d'essence dans un pick-up. Là, on est rendu à 150-60. Je commençais à regarder en dessous du véhicule s'il n'y avait pas un trou. Attends un peu, l'essence s'en tenait. Ben non. Ça coulait.
Ça rentre au poste.
Mais je comprends les gens qui ont un véhicule de ce genre, qui l'utilisent pour le travail, qui sont sur la route toutes les semaines et qui mettent un ou deux. Il y a un monsieur qui me disait qu'il met deux réservoirs par semaine.
Ah oui, c'est beaucoup.
Attends un peu, là. T'es quasiment 500$. Ça n'a pas de bon sens, mais bon, on en glissera un mot tantôt. Moi, de mon côté, je suis avec le Porsche Macan T.
Oh!
Le Macan.
Macan, ah oui! C'est pas le Macan.
En fait, les modèles T chez Porsche sont les modèles qui amènent, je dirais, c'est le moteur de base avec bien équipé.
Est-ce que c'est qu'un S, un T, en fait, la question?
C'est moins qu'un S.
C'est moins qu'un S, c'est ça.
C'est moins qu'un S, mais je trouve que c'est un bon compromis pour quelqu'un qui veut pas nécessairement le gros moteur, mais pas mal d'équipement. Alors, on va revenir là-dessus. J'ai roulé ça la semaine dernière. Alors, c'est un modèle qui est assez intéressant. Et, tiens, parle-moi donc de tes nouvelles de la semaine, mon Alain.
Oui, monsieur. Écoute, on a appris, hein, n'est-ce pas, qu'il allait avoir une vie après la mort pour la Chrysler 300. C'est pas une version.
Oui, surtout que c'est là depuis quoi, 2011?
Écoute, il serait temps. Puis sérieusement, il y a eu, tu sais, on en a parlé dans tous les sens, même de l'avenir de Chrysler au complet, là. Là, on le sait, évidemment, la 300, c'est une grosse berline là, qui, en ce moment, en tout cas, est à peu près parmi les plus gourmandes là, en carburant dans la catégorie. Donc, c'est pas le véhicule de l'avenir, disons, chez Chrysler. Et avec, évidemment, l'intention du groupe Stellantis d'électrifier la marque Chrysler en totalité d'ici, je pense, 2028. On se demandait ce qui allait arriver avec ce modèle. En fait, je dis totalité du catalogue comme si c'était une grosse affaire, mais rappelons-nous que Chrysler n'a que deux modèles dans le catalogue, la 300 et la Pacifica.
C'est à peu près tout.
Fait que ça laisse un peu de marge. On a maintenant, en tout cas, une meilleure idée là, de la suite et la bonne nouvelle, en tout cas pour les amateurs de la marque Chrysler et de la 300 aussi, c'est qu'il y aurait une nouvelle version de la berline à l'horizon 2026 et que ce modèle sera entièrement électrique. Le groupe Stellantis là a beaucoup, ben évidemment a d'autres marques, n'est-ce pas, et a beaucoup de composants développés à l'interne pour ses différentes filiales. Et il existe une plateforme électrifiée conçue pour les plus gros véhicules du groupe qui s'appelle la plateforme STLA large. C'est ce que ça a besoin de dire. C'est une plateforme là qui serait donc considérée pour donner vie à une nouvelle version à électron de la 300. C'est une plateforme dotée d'une batterie qui peut atteindre une capacité de 118 kWh et qui est prête pour la recharge rapide de 800 volts. Selon les moteurs électriques choisis, la puissance peut varier en 201 et 442 chevaux. Ce que tout ça laisse entendre, c'est que cette berline plein format sera en mesure de parcourir jusqu'à 800 km, entre guillemets, européens par charge, ce qui signifie, disons, peut-être quelque chose comme, je sais pas, 500 à 600 km pour nous, là, nord-américains, qui apparemment avons le pied plus pesant. Ou en tout cas, vu la différence officielle en calcul des autonomies d'un continent à l'autre, là, pour le dire comme ça.
Ouais, c'est des formules qui changent.
Ouais, ben c'est ça, exact.
La formule européenne, disons, est correcte en soi, sauf qu'elle est un peu optimiste. Et les conditions dans lesquelles on calcule cette formule-là, dans la vraie vie, ne se reproduisent à peu près jamais.
En tout cas, pas
ici. Donc, c'est pour ça que le EPA, l'EPA, qu'on prend en Amérique du Nord est beaucoup plus réaliste. Là.
Voilà, exactement. Ben, c'est plus réaliste pour nous, parce qu'en plus, on est en Amérique du Nord. Bref, fidèle à la tradition, là, il y aurait aussi un modèle similaire, mais un peu plus bas de gamme, qui serait commercialisé sous l'enseigne Dodge. Je sais pas si tu te rappelles, Benoît, de la fameuse paire de Chrysler 300 et Dodge Magnum, là, qui nous ramène au milieu des années 2000.
Je suis allé au lancement de ça.
C'était le fun, ça. C'était un des lancements les plus relax.
Je suis même allé au lancement de la Dodge Intrépide. On commence à reculer, là.
Ça, c'est du vécu. écoute, des beaux souvenirs de lancement, par exemple, la Magnum, tout ça, c'est un bel événement. Ça nous ramène à une autre époque. Évidemment, je miserai pas ma chemise là, sur le retour d'un Magnum électrique, là, mais je t'avouerai qu'une familiale Dodge est électrique.
Une Magnum électrique, là, honnêtement, ça me tenterait en Moses.
Avec le look que ça avait, cette bedette-là. Cela dit, Dodge a déjà annoncé, puis c'est un peu. Je vole le punch, en fait, là, mais elle va mettre sur la route. D'ici la fin 2024, un muscle car électrique. Donc, c'est peut-être plus ça qu'on va voir, vraiment, qui va être la base sur laquelle on va faire un 300 éventuellement. Mais à suivre, là, 2024, c'est essentiellement en termes automobiles l'année prochaine. 2026, c'est quasiment l'année suivante au rythme où on les choses. Donc, ça s'en vient vite chez Chrysler, la version nord-américaine du groupe italo-français Stellantis.
Exact. Ton autre nouvelle m'intéresse aussi, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu plusieurs nouvelles là-dessus, mais là, ça a l'air que c'est officiel. Là. Sony et Honda seraient mariés. Là.
Oui, ben c'est bien que tu confirmes l'intérêt, parce que j'étais pas sûr, parce que ça reste, à mon avis, quelque chose d'intriguant plus que tout le reste. Mais effectivement, il va y avoir une entreprise formée d'ici la fin de l'été qui va s'appeler Sony Honda Mobility, avec probablement le petit accent japonais qui va être de mise. Là, on en a parlé beaucoup, surtout de Sony plus spécifiquement, là, parce qu'on a pu voir les deux prototypes de véhicules électriques et disons-le, lourdement chargé d'électronique que Sony a présenté au CES à Las Vegas au cours des dernières années. La plus récente des deux, c'est un VUS électrique qui était présenté en janvier dernier.
Ouais.
Mais là, on en sait un peu plus sur la portion business de ce projet-là là, du groupe japonais qui, évidemment, un peu contre toute attente et en pleine surprise, parce qu'on ne l'attendait pas comme ça, mais a décidé officiellement de se lancer dans la construction de véhicules électriques. En mars dernier, Sony et Honda ont confirmé qu'ils allaient créer ensemble une co-entreprise pour commercialiser les véhicules électriques inspirés des deux prototypes. Pardon, mon Dieu, c'est difficile à dire ce mot-là. Deux prototypes en question. Oui. Merci beaucoup. Une syllabe à la fois. Ce qu'on sait maintenant, c'est que la co-entreprise en question va s'appeler de façon très laconique, et ça, c'est ce qui est un peu plate, là, Sony Honda Mobility Inc.
Oui, ils ont travaillé fort.
C'est du travail d'imagination. On aurait évidemment peut-être aimé un nom un peu plus évocateur ou inspiré, mais en même temps, ça dit ce que ça a besoin de dire, n'est-ce pas? Ce qu'on sait de plus, c'est que là, les premiers produits, les premiers véhicules vont sortir des usines dès 2025. Donc ça, c'est dans...
C'est rapide, ça, là.
J'arrête pas de dire que c'est l'année prochaine. Ça, c'est plus comme dans 3 ans, mais c'est quand même bientôt.
On est passé la mi-2022, là. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir quelle pile ils vont mettre là-dedans.
Écoute, ça va être intéressant.
Là, on sait qu'Honda a déjà une entente avec GM pour les piles ultium.
Exact.
Ils vont-tu joindre GM dans cette union-là?
C'est une bonne question. On sait au minimum, parce que c'est l'évidence même, que Sony va fournir tout ce qui n'est pas propulseur, véhicule.
Toute l'électronique,
capteur pour l'assistance avancée.
Système audio,
tableau de bord, écran, n'importe quoi. Allez-y. Ouais. Système de connexion, réseau sans fil, parce que évidemment, les voitures électriques sont connectées en même temps. Divertissement embarqué, là, écoute, si quelqu'un peut. S'ils veulent faire sérieusement, là, on se le dit, là, s'ils veulent un coup de circuit, ils mettent l'interface de la PlayStation là-dedans.
Tous les acheteurs
de 30 ans et moins vont se précipiter sur ce voiture.
C'est garanti.
Mais en tout cas, encore une fois, allez pas parier votre chemise là-dessus.
Tu joues à Gran Turismo assis en arrière, là.
Évidemment, de son côté, vous le savez, là, Honda va s'occuper de développer le groupe propulseur des véhicules, intégrer les dispositifs de sécurité et ajouter la logistique de production et de commercialisation. Ouais. Bref, effectivement, comme tu l'as dit, ça laisse un trou là pour d'où va venir la pile et la plateforme qui va soutenir tout ça. Je sais pas si dans l'entente entre GM et Honda, il y a un loophole.
J'aimerais ça le savoir, mais je l'ignore totalement.
Deux prototypes qu'on a vus, c'est une petite berline un peu familiale, légèrement familiale.
L'autre qui a l'air plus d'un VUS.
Puis un VUS, les Vision S et S02. On imagine, sans que ce soit ces deux véhicules-là qui soient éventuellement mis en marché, que ça va pas mal ressembler à ça en termes de format, parce que c'est deux créneaux
ça serait logique.
Très populaires et probablement plus facilement abordables quand on produit des véhicules dans ces niches-là. On va le voir bientôt. L'entreprise va confirmer tout ça là, d'ici la fin de l'année, donc d'ici Noël. Fait qu'on va savoir probablement cet automne exactement ce que ça va donner comme forme. Je lisais un peu plus large là-dessus, puis il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est pas un peu trop tard cette arrivée de Sony et Honda dans le créneau pour profiter vraiment du virage à fond. Il y a beaucoup d'observateurs qui doutent de la pertinence ou du timing, disons, parce qu'on s'entend qu'il y a du monde en masse dans ce créneau-là déjà.
Il y a du monde en masse, mais moi, je pense que la pandémie a donné un sursis à beaucoup de gens. Parce que, techniquement, là, n'eût été de la pandémie, on serait plus loin qu'on est rendu là.
Penses-tu?
Il y a de l'attente à tous les niveaux. Il y a un ralentissement généralisé.
Ça, c'est une question à débat. Si on peut effectivement poser la question.
Je pense qu'il y a un sursis qui a été donné à beaucoup de monde. Parce que là, on s'entend, là, la plupart des gens... En tout cas, on parle au niveau du Québec, parce qu'on est chez nous, mais la plupart des gens attendent un véhicule électrique en ce moment.
Oui.
Fait qu'il est pas trop tard pour les gens de venir se glisser dans l'offre, alors qu'on est encore, pour beaucoup de gens, en attente. Alors, je pense que il est pas trop tard. Il est tard, parce qu'il y en a qui se sont déjà lancés avant. Mm-hmm. Mais je pense pas qu'il soit trop tard.
Alors, ben, ça peut être intéressant. C'est un peu la dualité entre premier véhicule versus véhicule de deuxième génération. Parce que, tu sais, une compagnie comme Chevrolet ou une marque comme Chevrolet va avoir déjà trois générations de Bolt derrière la cravate dans trois ans.
C'est vrai. Sauf que...
Mais c'est sûr que le marché est encore à prendre.
Tu sais, je dis toujours à la blague, quand t'arrives en retard un party, amène quelque chose d'intéressant.
Exact.
Et ça, avec Sony, Sony peut amener des choses qu'on n'aura pas vues ailleurs. Parce qu'ils sont capables de faire, parce mm-hmm. qu'ils ont l'intégration. Tu sais, si on intègre de façon verticale tout ce que Sony fait dans un véhicule, ça peut aller loin, là. Ça peut aller loin, puis ça peut être intéressant. On amène autre chose.
Mm-hmm.
Mais comme tu dis, si on met PlayStation en arrière,
à suivre. Mais c'est sûr qu'il y a des morceaux d'un beau casse-tête qui peut être
absolument.
Réalisé. Ça va
absolument.
Être intéressant.
Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Effectivement. De mon côté, avec nos amis de VinFast...
Continue d'annoncer des choses.
Ouais, ben là, ils ont annoncé un partenariat que Prologium Technologies.
Ouais.
Pour les gens qui ne savent pas c'est qui, c'est une jeune pousse taïwanaise qui est spécialisée dans les batteries à électrolytes solides.
Okay.
Donc, on travaille déjà avec Mercedes. Donc, c'est pour vous dire qu'on travaille déjà avec des gens bien établis. Et là, VinFast a annoncé que dès 2024, on va avoir des véhicules avec piles à électrolytes solides sur le marché.
Oh boy!
24, c'est demain, ça.
Ils sont un petit peu en avance sur le marché, parce qu'on parlait de 2028 pour les plus pressés dans l'industrie actuelle.
Ben, Nissan a parlé de 28, on a parlé de 26 pour certains modèles mm-hmm. BMW en Europe, mais 24, là, moi, c'est le plus bas que j'ai vu à ce jour. Et on dit qu'ils ont déjà signé l'accord, qu'on a lancé du côté de Prologium la première grande usine de batterie. Qu'on va lancer, la première usine de batterie à électrolyte solide début 2023. Évidemment, une partie importante de la capacité de la production de l'usine approvisionnera VinFast.
Ouais.
Et à l'avenir, les deux sociétés pourraient établir une usine en co-entreprise au Vietnam.
Oh.
On le sait que le terrain où toi et moi on est allé,
il y a de la place.
On peut établir une usine de batterie là, sans problème.
Ça a été prévu pour grandir beaucoup,
beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de place. Puis même à l'intérieur de l'usine qu'on a vue, il pourra prendre des coins pour faire des batteries là-dedans. Là, ça pose pas de problème.
C'est vrai.
Mais on dit qu'on veut mettre de l'avant le plus rapidement possible cette nouvelle technologie, tant dans son usine de fabrication que dans la création de partenariats stratégiques. On le sait, c'est des gens qui sont extrêmement dynamiques du côté de VinFast. On va voir ce que ça
ils
va
ont,
donner.
Ils ont besoin parce qu'ils ont... Il y a beaucoup de cynisme par rapport à leur modèle. Donc, effectivement, il faut
ça, je trouve, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, bon, pour ceux qui ne connaissent pas les piles à électrolytes solides, ce sont des piles, comme on le dit son nom, solides.
Mm-hmm.
Peut-être la plus grande qualité de ces piles-là, c'est que c'est ininflammable. Vous n'aurez pas de feu là-dedans.
Ben, c'est plus compact, c'est plus dense, c'est moins cher.
C'est moins cher. C'est la deuxième grande qualité mm-hmm. de ces piles-là. Il n'y a pas de lithium, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas d'affaires rares et très, très chères. L'autre qualité, c'est que ça se recharge plus rapidement.
C'est vrai.
Et ça coûte moins cher. Donc, j'ai bien hâte de voir, est-ce qu'on va continuer de louer les piles du côté de VinFast, même avec ces nouvelles piles-là, on va-tu les inclure? Ça, c'est la question à 2$, mais ça s'en vient rapidement. Puis l'autre question, l'autre nouvelle que j'ai ce matin qui est intéressante, là, on parle peut-être, et là, j'y vais au conditionnel, d'amener une Volkswagen à Maroc, au Canada et aux États-Unis.
Ah, mais ça serait intelligent au bout,
ben là,
comme on dit en bon québécois.
Parce qu'il y a une Amarok qui est pas loin de chez nous, en Amérique du Sud.
Exact.
La première génération qui a commencé en 2010 était construite en Argentine et était vendue en Amérique du Sud et pas chez nous. Mais à l'époque, reculé à 2010, les modèles intermédiaires étaient pratiquement disparus du marché. Et ceux qui restaient étaient, disons, dans un piteux état.
Mm-hmm.
Il restait un Tacoma, un Frontier, puis je pense qu'il restait l'ancienne génération du Colorado à l'époque. Et là, avec la renaissance de ces modèles-là, plus tard, quelques années plus tard, et voir comment ça fonctionne bien aujourd'hui, ben là, on se dit, bah, peut-être que ça serait un bon moment pour le faire. Puis là, évidemment, l'Amarok est basé sur un châssis de Ford Ranger. Donc, c'est la base d'un Ranger. On aurait probablement des moteurs spécifiques à Volkswagen. Bon, on a un moteur diesel en Amérique du Sud, mais ça, je pense qu'on peut mettre ça de côté automatiquement. Il y a 148 chevaux. Ça répond pas aux besoins d'ici.
Ils peuvent en sous-main par Ford. Ils l'ont déjà fait.
Ils l'ont déjà fait. Mais il y a un moteur de 298 chevaux à essence qui serait probablement le moteur qui viendrait ici. On dit du côté de Volkswagen que le modèle va être un peu plus long que le Ranger. On va allonger un peu l'empattement. On va offrir un modèle 2 portes et 4 portes. On va avoir une finition qu'on dit plus haut de gamme du côté de Volkswagen. J'ai hâte de voir si ça se fait. Quel sera le prix? Parce que du côté de Volkswagen, généralement, on paye quelques dollars de plus.
C'est vrai?
Et c'est pas toujours, en fait, ça a été un frein pour certains modèles en Amérique du Nord. Je sais qu'il y a eu des débats à un moment donné avec Volkswagen pour la Polo, qui était très populaire en Europe, qu'on disait, hey, ça marcherait au Canada, puis tout ça. Puis on avait parlé avec les responsables de Volkswagen à l'époque qui nous avaient dit, faudrait vendre ça au bas mot, entre 22 et 24 000 $ pour un modèle de base.
Ouf.
Et à l'époque, t'avais...
T'avais 14, 15 000.
T'avais une Honda Fit pour 14, 15. Ouais. T'avais des modèles équivalents dans les compacts. Il y avait rien en haut de 20. Puis là, t'arrivais avec un modèle à 2, 3...
Fait qu'ils ont, hors de prix.
Ils ont décidé que ça marcherait jamais. Alors, c'est au conditionnel. Ce n'est pas confirmé. Le modèle a été confirmé pour l'Australie, pour l'Europe, pour l'Amérique du Sud. On attend de voir pour l'Amérique du Nord qu'est-ce que ça va donner.
Mm-hmm.
Alors, la question est posée, on verra bien. On va prendre une petite pause, puis on va revenir ensuite avec, tiens, notre sujet de la semaine. Je t'en parle pendant la pause.
Oui, merci.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors aujourd'hui, on va se faire un petit débat, Alain et moi.
Un débat.
Et absolument, le sujet étant quelque chose dont j'ai, en tout cas, j'ai eu pas mal de questions à ce propos-là. Alain, tu le sais, depuis, ça fait quelques années maintenant, mais on est en train de revoir dans le monde de l'automobile quelque chose qu'on a vécu jusqu'à un certain point il y a plus de 100 ans.
Mm-hmm.
Tu sais, il y a plus de 100 ans, là, il y a des autos électriques, ça existait. Il y avait des voitures à vapeur, ça existait aussi, puis il y avait les voitures à essence.
Mm-hmm.
Ce qui a fait à un moment donné que c'est la voiture à essence qui a gagné, c'est parce que ça a été plus convenient, plus facile.
Plus utile,
parce qu'au début des voitures à essence, faut pas oublier que les gens allaient chercher leur carburant qui était du benzène ou du kérosène dans la pharmacie. Là. On prenait ça, il y avait des contenants, puis tu mettais ça dans l'auto.
Il n'y avait pas de station d'essence à tous les coins de rue.
Exactement, ça a pris un bonhomme comme Rockefeller. Qui a littéralement mis au monde Standard Oil, après ça, qui a fait des stations-service.
Mm-hmm.
Les stations-service, ça a commencé d'abord pour les cultivateurs dans l'Ouest américain, en fait, dans le Midwest américain, où un jour, quelqu'un a dit, ouais, ça sera moins tracas qui viennent le chercher ici que toujours charrier des cannes.
Mm-hmm.
Puis là, l'idée est venue de dire, hey, une station-service. Ça et le démarreur électrique chez Cadillac en 1912 a fait que là, on tournait à la clé, puis ça partait au lieu de la manivelle qui était...
C'est une expérience, ça, quand
sur
même.
Sur certains modèles qui étaient carrément dangereux. Là.
Mm-hmm.
Mais là, je ramène ça au débat d'aujourd'hui.
Oui.
On arrive dans un contexte où, d'un côté... T'as beaucoup de jeunes pousses.
Mm-hmm.
On parle de Rivian. Bon, j'oserais pas mettre Tesla là, parce qu'on est rendu plus loin que ça chez Tesla. Mais Tesla est une jeune pousse en 2012.
Ben, c'est pas si long. Tesla, c'est vraiment la pique, la pointe de lance, parce que c'est vraiment... tu mets ça dans le temps. Dans les 40 dernières années, il y a à peu près juste une nouvelle marque qui est apparue, puis c'est Tesla dans l'industrie.
Exactement.
Donc, c'était quelque chose.
Alors, toutes ces petites marques-là, les Rivian, les Bollinger, les Faraday,
Lucid,
bon, et on pourrait en nommer d'autres, vont faire face bientôt à une vague qui va arriver des constructeurs établis.
Mm-hmm.
Et la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on va survivre à ça du côté des petites marques?
C'est une excellente question. Moi, je veux dire, étant donné que je travaille depuis longtemps sur le secteur technologique et que s'il y a beaucoup de similitudes, l'expérience que j'ai là-dessus vient de deux places. Les entreprises qui n'ont pas de brevets, donc qui n'ont pas de propriété intellectuelle, vont disparaître rapidement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Okay.
Parce qu'ils n'ont aucun actif qui vaut la peine, qui les distingue du reste du groupe. Et historiquement, tu sais, tu le dis, il y a 100 ans, à un moment donné, dans les belles années d'automobile, il y avait, mettons, 70 marques de voitures.
Ah, il y en a eu jusqu'à 300 à un moment donné.
Voilà. Là, aujourd'hui, on en compte une trentaine, globalement. Ouais. Tu sais, puis, donc, il y a toujours un phénomène d'attrition, puis toujours un phénomène de les gros avalent les petits, puis c'est normal, c'est la concentration de marché, puis ça se fait dans tous les secteurs, ça va en techno, ça va en auto, ça va dans n'importe quoi. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est effectivement, il va y avoir des joueurs qui vont apparaître, et ceux qui ont de la propriété intellectuelle risquent d'être rachetés par les plus gros. Ford avec Rivian sont pas ben loin d'avoir un œil dessus parce qu'ils ont investi beaucoup. Je te dirais que le groupe GM, je serais curieux de les voir agir parce qu'ils ont pas mal développé leur propre technologie. Mais une compagnie comme Toyota pourrait à un moment donné cette année, parce qu'ils sont pas exactement en avance là, sur personne dans l'électrification, puis bon, ben là, tu sais, on va en acheter un, ça va nous donner un bond d'une génération ou deux de véhicules. Et on va régler beaucoup de problèmes en faisant ça.
Toyota, l'avantage, c'est qu'ils ont les moyens.
Ils ont
beaucoup de contacts. Et en fait, Toyota, pour les gens qui connaissent pas la façon dont Toyota fonctionne, Toyota, c'est un rassemblement de fournisseurs qui forment une compagnie. Et moi, je me suis laissé dire par des gens dans le milieu que Toyota, par les temps qui courent, achète beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais ils ont énormément d'argent.
On prépare un grand coup chez Toyota dont on n'a pas encore entendu parler. Mais les gens me disent, là, ils sont à se préparer. C'est sûr que si on regarde Toyota en ce moment, ils sont en retard. Ils ont un modèle électrique. Ils veulent encore miser sur l'hydrogène, qui va être une autre solution qui, d'après moi, va exister dans un avenir moyen et long terme, c'est clair. Ils poussent très fort. T'en as d'autres. T'as BMW, t'as Hyundai. Il y a quelques compagnies qui poussent derrière ça. Mais des compagnies, bon, prenons l'exemple de Rimac, qui a réussi à s'en sortir. Tu parlais de brevets. Ils ont réussi à s'associer à Bugatti, qui appartient à Volkswagen. Ils vont probablement survivre. Mais un Lucid, un Faraday, un Bollinger, qui eux autres ont plutôt profité de la vague d'intérêt électrique pour se lancer là-dedans. Toi, d'après toi, ces gens-là, s'ils n'arrivent pas à amener quelque chose d'inédit sur le terrain, ne survivront pas longtemps.
Ils ne resteront pas. Lucid, puis là, je dis ça, il faudrait voir leur catalogue de brevets, parce que c'est vraiment là que ça va jouer de plus en plus. Parce que l'automobile, de plus en plus, c'est un secteur de technologie. Et dans la technologie, c'est pas la capacité de fabriquer, c'est pas la capacité de vendre, c'est la capacité d'innover, d'avoir une certaine valeur ajoutée dans le produit qui fait la différence. Puis ça, tu sais, on l'a tellement vu. Une voiture électrique, essentiellement, c'est une planche à roulettes, une planche avec quatre pneus.
Ben oui.
Dans laquelle on intègre la batterie. Et là-dessus, on met la carrosserie qu'il faut, l'habitacle qu'il faut pour faire le véhicule qu'on veut. Donc, il y a tout le composant qui était avant l'affaire des motoristes qui était comme, tu sais. Souvent, c'était la façon de distinguer d'un constructeur, ça disparaît maintenant.
Ben voilà, parce que tu sais, on achetait une BMW pour le 6 cylindres en ligne.
Voilà,
on achetait une Mercedes pour, je ne sais pas, les modèles AMG. Mais maintenant, avec l'électricité, tout le côté mécanique prend la porte de droite.
Ouais.
Et on n'a plus besoin, puis on le sait, des fournisseurs de piles, il y en a, là, il y en a. Donc, si tu as un bon fournisseur de piles, puis une planche à roulettes qui fonctionne, tu as une auto.
Exactement. Donc, une petite marque comme ça, c'est à risque de disparaître. Mais déjà, Bollinger, ça n'a pas l'air facile en ce moment.
Non, c'est pas facile. Ils sont en retard. Rivian aussi. Rivian ont accusé beaucoup de retard, même s'ils ont eu une grosse capitalisation boursière.
Rivian, ils ont eu de l'aide de Ford et d'Amazon.
Et d'Amazon. Aussi,
ils sont bien backés.
Amazon a toujours 100 000 véhicules de livraison de commandés. D'ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup là-dessus que Rivian met l'accent en ce moment. Parce que t'as un client qui paye, fait que tu dis, bon, on va en fournir au détriment des autres en ce moment.
Je vais aller un peu plus loin. Parce qu'on parlait de Tesla tantôt. Tesla se définit en ce moment comme une marque de voitures électriques de luxe. C'est vraiment ça qui distingue Tesla de pas mal tout le reste dans l'industrie. Parce que veut pas, c'est des voitures qui sont vendues plus chères que des voitures d'entrée de gamme. Là.
Ouais.
Et quand tu parles aux analystes, des gens qui regardent que les chiffres, qui sont pas, tu sais, qui sont pas fans, qui sont pas non-fans, qui sont juste rien à part. Moi, je regarde les chiffres de vente, je regarde le marché, je regarde où ils s'en vont. Tout le reste, là, le camion, le semi, tout ce qui est pas voiture de luxe électrique, là, pour eux, c'est du superflu, puis c'est quelque chose qui éventuellement va disparaître et il va rester parce que pour ajouter, pour créer de la valeur, pour continuer à grandir comme ils le font, pour justifier la valeur qu'ils ont actuellement, même Tesla pourrait avoir amené à se à se nicher, disons, dans vraiment ce qui est sa force, ce qui est sa spécialité, ce qui sont les voitures et petits VUS électriques maintenant.
L'autre question que je me pose, et ça a rapport aussi au modèle électrique, là, on le voit, les prix, parce que là, ce qu'on a annoncé aux gens au début, on dit, ah, là, au début, les piles n'ont pas beaucoup d'autonomie, on va améliorer l'autonomie des piles, donc les rabais qu'on a eu à produire un kilowatt sont pas allés à faire baisser le prix, mais à augmenter l'autonomie. C'est ce qu'on s'est appliqué à faire. Là, il y a quelques mois, une compagnie comme BLW, on dit, écoutez, nous autres, là, autour de 500, on est à l'aise avec ça. On remontera pas non plus, on veut pas aller courir après 700, 800, 1000 kilomètres. Sauf que le problème, on devait annoncer tranquillement des baisses, mais là, on réalise que ça baisse pas partout, là. Ça continue de monter.
C'est vrai.
Est-ce qu'on va pas mettre ces véhicules-là à l'écart de monsieur, madame, tout le monde? T'sais, parce que si on veut être capable d'aller chercher la masse de la population pour des véhicules électriques, il faut être capable d'arriver avec des prix que ces gens-là vont pouvoir payer. C'est quoi la crainte que tu as vis-à-vis des prix qui continuent de monter? Est-ce qu'on va pas se mettre de côté une grande partie de la population qui vont dire ah, « c'est bien beau, mais j'aurai jamais ça ».
C'est un risque tout à fait présent. J'en ai parlé, je ne sais plus avec qui récemment, mais évidemment, si la. Parce que la voiture, c'est un morceau de toute la chaîne de mobilité. Hein.
Exact.
On peut prendre l'autobus, le train, le métro, bon, l'avion si on veut être vraiment intense, ou le bateau, peu importe, là, mais ou la trottinette, puis le vélo aussi en ville. Et évidemment, l'infrastructure de la plupart des pays, des industries, des économies avancées, c'est l'autoroute, donc la voiture. Ce qui fait que l'automobile est si importante, c'est que c'est le meilleur moyen de transport. Qui offre la plus grande possibilité de se déplacer, la plus grande polyvalence à un coût le plus raisonnable en ce moment. Si on enlève ça, il va falloir avoir d'autres moyens de transport, parce que les gens n'iront pas nulle part.
Exact.
Donc, il va y avoir une pression, c'est sûr, là, pour remplir ce vide-là, parce que nécessairement, ça va créer un vide s'il n'y a pas de véhicule abordable. Mais là-dessus, moi, je pense que une marque comme Chevrolet, par exemple, on sous-estime sa volonté d'offrir des véhicules abordables électriques parce que la Bolt est née du défi de lancer une voiture comme la Bolt à moins de 35 000 $ américains quand c'était la première génération parce que c'était la cible du modèle 3 de Tesla qui était un peu hypocrite parce que Tesla, finalement, ça n'a jamais
été ça. Oui, en fait, on ne l'a jamais vu. La Tesla 3 à 35 000, là, ils en ont parlé, exact. Mais il n'y a personne qui ne l'a jamais acheté. Là.
Puis Tesla, évidemment, a eu toute l'espèce de gloire et de reconnaissance, mais c'est la Chevrolet Bolt qui est arrivée avec un prix de détail qui était plus proche de ce qu'on
même en ce moment, avec les rabais au Québec, tu étais à 31 700, 800, ce qui reste encore, mais c'est accessible.
Ouais.
Bon,
bien
maintenant, on peut-tu avoir un VU un peu plus grand pour la famille qui va être dans ces prix-là. Tu sais, j'ai hâte de voir, moi, à quand la technologie électrique va être capable de nous servir des véhicules qui reviennent à des prix proches de ce qu'on trouve. Parce que pour le moment, la promesse abordable.
Ils donnent des cibles, mais ils n'atteignent pas parce qu'ils vendent des prix qui n'ont aucun bon sens.
Ouais, c'est comme.
Je ne sais pas si tu étais là. Tu sais, quand il y a eu la première crise, ben, c'est pas la première, mais une autre crise du prix du pétrole en 2007-2008, là.
Ouais.
GM avait commencé à parler. Ah, ben, c'est parce que George W. Bush était président, puis lui, il finançait à fond la recherche dans l'hydrogène à l'époque. Il y avait un événement sur un prototype de Buick à hydrogène, à pile à combustible.
Non, j'étais pas là.
Puis ils ont fait, puis c'était clairement, là, écoute, c'était mal ficelé, le, en tout cas, c'était bien compliqué d'essayer le véhicule, mais il y avait toujours proche du véhicule un représentant de Shell, de la pétrolière, et, ou Esso, en tout cas, une des grandes pétrolières, puis ce qu'il disait tout le temps, c'est, quand il va y avoir un changement de technologie motrice, là, que ce soit peu importe électrique, hydrogène, attendez-vous jamais à ce que ce soit moins cher parce qu'on va se récupérer là, une marge de profit qu'on a perdue au fil du temps dans la méthodologie.
C'est ce que beaucoup de gens disent. Mais là, le problème, c'est qu'on élimine tout ce qui est abordable du marché.
Exact.
Et comme l'électrique est plus cher, ben on remplace par du plus cher. Puis même dans l'essence, il n'y a plus de petits modèles. On tombe avec beaucoup de VUS qui coûtent en général 7, 8, 9, 10 000 $ de plus.
Et n'oublions jamais que le modèle économique de la voiture à essence est extrêmement subventionné aussi. Peut-être pas au niveau de l'achat du véhicule,
non.
Mais toute la chaîne derrière.
Mais c'est ça. Si on veut garder le côté abordable de tout ça, il va falloir réfléchir. Parce
ça va
qu'en
se transposer
ce moment,
éventuellement dans l'électrique aussi.
Bon, mais en tout cas, c'est je pense que le sujet en valait la peine.
Il y a beaucoup à dire. C'est un moment, c'est super excitant d'un point de vue, tu sais, industrie, parce qu'il y a des turbulences comme jamais dans l'automobile. Puis effectivement, il y a beaucoup de monde qui veut rentrer.
Écoute, il y a des nouvelles tous les jours, mais c'est ça, c'est un marché d'initiés. Mm-hmm. Il faut bien connaître dans quoi on s'embarque. On saura regarder ça. Merci, Alain. On va prendre, nous autres, une autre petite pause, puis après, je pense qu'on va revenir avec nos essais.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Troisième bloc, et c'est le temps de faire l'essai de nos véhicules. Alors, tantôt, tu me parlais de quoi déjà, toi?
Je suis content d'avoir passé 10 minutes à parler d'électrique pour tomber dans un Toyota Tundra.
Yes, sir!
La minute d'après, ça rentre au poste en tabarnouche.
Ah, mais là, la réalité, c'est ça.
Hein? Écoute, c'est super. Ben, c'est un essai que moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Tu sais, on rit des pick-up parce qu'il y a un peu l'espèce de stéréotype, mais c'est tellement pratique, ces véhicules-là. T'sais.
C'est un véhicule à tout faire. Moi, les gens me disent toujours, comment ça fait qu'on vend tant de camions? Je dis, en avez-vous déjà un? Non. Quand vous en aurez eu un, vous m'en reparlerez. La plupart des gens qui ont possédé un pick-up, ils peuvent plus s'en passer. Parce que tu te poses jamais la question si ça rentre ou pas. Mmh. Ça rentre, t'as allé quelque part, mets ça dans la boîte, t'as de quoi amener, installe ta boule, on part avec.
Ouais.
Tu sais, écoute, les trois véhicules les plus vendus, en fait, les quatre, c'est le F-150, le Silverado, le Sierra, puis le Ram.
Ouais.
Bon, pas nécessairement dans cet ordre-là, mais je veux dire, en fait, si on prend Sierra, Silverado, qui sont, en fin de compte, des modèles tout à fait semblables, bon, ben ils sont au deuxième rang, sont mal les deux devant le Ram, et le F-150 est devant. C'est quelques centaines, tu sais, c'est 126 000, je pense, au Canada l'année passée pour le F-150.
C'est pratiquement
10 %
du marché.
C'est 10 %. En fait, les trois ensemble, c'est 25-30 % du marché. Donc, c'est ça beaucoup. Vous donne une idée, là, c'est beaucoup de monde.
Puis, je vais rajouter à ça, vu qu'on est dans le plus large, tu sais, il y a une quinzaine d'années, un Ford Ranger, c'était le véhicule le moins cher. Tu peux avoir un Ford Ranger pour à peu près 11 000 $
bon,
à l'époque.
Oui,
une petite camionnette.
Les dernières années, là, on se débarrassait littéralement de ce qui restait.
Tu avais la série B chez Mazda qui était un plus petit.
Qui était
similaire, mais qui était aussi.
Un Ranger.
C'était une autre époque, définitivement.
Exact.
Je suis allé voir parce que j'étais curieux de savoir. Le slogan de Toyota en anglais pour présenter sa nouvelle camionnette est impossible à traduire parce que c'est. En anglais, c'est The New Definition of Grit. Fait que là, je t'allais voir sur le site du dictionnaire.
La nouvelle définition de grévé, quoi.
Si on veut le traduire à peu près, là, la nouvelle définition de la rugosité.
Ah,
ça fait pas
oui.
la même...
Non, ça n'a pas le même impact. Hein?
Parce que premièrement, il faut avoir la voix « The new definition of grit ».
Oui, puis faut le ramper un peu.
Et expliquer comme ça, ça définit assez bien, en fait, la direction prise par le marché des camionnettes, parce qu'on voit vraiment, c'est des véhicules très... t'sais, travailleur, gars de chantier, faites solide, tout le kit. Et c'est un peu aussi ça qu'a voulu faire Toyota en revampant sa propre camionnette, n'est-ce pas, la Tundra. Et évidemment, leur slogan est éloquent là-dessus. Rugosité, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, probablement que ça explique la silhouette tranchée à la hache du véhicule, qui est extrêmement carré et massif.
Oui, oui.
Énorme. Je l'ai écrit de même, calandre. Écoute, la grille, ça n'a aucun bon sens.
Oui, mais on s'est dit, bon, regarde, on est capable de faire ça in your face, comme disent les Anglais.
Oui, puis à la hauteur que ça a, c'est pas ben plus bas que ça. Format donc très vertical, qui donne l'impression, effectivement, qu'on conduit à peu près pas d'autre chose qu'un char d'assaut. Ou peut-être un camion de, tu sais, dans les mines là, qui ont des pneus de 3 mètres de haut, quelque chose comme ça. Mais quelque chose de très, très industriel. Le Tundra, évidemment, bon, c'est beaucoup de choses. Toutes ces choses-là pointent vers un véhicule qui se veut inspiré d'un monde où, manifestement, on n'a pas peur de salir les mains, là, qui est un petit peu aussi l'autre aspect du mot grit, en voulant dire, tu sais, on est vraiment... Je veux dire, à la limite, si on veut jouer dans le stéréotype, il y a un petit côté col bleu à tout ça, là, qui rappelle un peu ce que Ram essaie de faire en termes de mise en marché. Personnellement, je parle de clichés et de stéréotypes parce que quand on regarde plus loin dans la fiche technique du Tundra, on se rend compte que c'est peut-être un peu surfait. Le Tundra là se vend essentiellement à un prix de détail qui démarre à 57 000 $. Il y a des versions de base à partir de 47 000 $, mais les versions les plus complètes, qui sont probablement les plus achetées sans tomber dans les gadgets superflus non plus, là, ajoutent au moins 10 000 $ au prix de base. Ce qui fait que c'est pas le véhicule, tu sais, du salaire minimum, disons là comme
non,
ça.
Non. Ben, tu sais, en fait, il y a aucun de ces camions-là qui est le véhicule du salaire minimum. N'entendons-nous bien.
Et clairement, là, on perd, à mon avis, quelque chose. Bon, on commence un peu à bouger dans le marché de la camionnette pour avoir des modèles en dessous de ça, mais Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu au fil du temps.
Regarde, aux États-Unis, là, on a lancé le Maverick hybride à 20 000 $ ou à peu près, là, puis écoute, ils ont manqué de modèle.
Ben oui, ben c'est ça.
Littéralement,
voilà.
Pourquoi? Parce que tu conserves jusqu'à un certain point le côté pratique d'une camionnette, mais sans avoir à débourser trois fois le prix pour avoir quelque chose de trop gros dont tu n'auras pas vraiment besoin. Les camionnettes intermédiaires ont bien fonctionné à leur retour pour les mêmes raisons. On était capable de trouver un format qui est quand même assez travaillant, mais qui est pas nécessairement pour celui qui en fait un usage professionnel.
Non,
donc, et ça va continuer de fonctionner. Regarde, là, le Santa Cruz a été un des véhicules qui s'est le mieux vendu dans la deuxième moitié de 2021.
Ben voilà.
Pourquoi? Ben parce que il y a ce côté qui est pratique, qui est le fun à conduire. Puis comme c'est basé sur un VUS, c'est très confortable. Puis bon,
ça
tu vas me dire, t'as pas une grosse boîte. Mais là, si t'as pas nécessairement besoin d'une grosse boîte, tu sais, les gens me disent toujours, moi, en bas de 8 pieds, on n'en parle pas.
Ouais.
Mais tu sais, quelqu'un là qui a juste besoin de jardiner, de transporter des petites affaires, c'est en masse.
Hey, combien de fois dans l'année on transporte des feuilles de gypse de 4 par 8? La question, je pense, c'est assez...
Ben,
répond
c'est
de même, ça arrive
non,
pas si souvent.
Il y a des gens, là, moi, je connais des gens qui travaillent sur des chantiers de construction, tout ça. Oui, mais ces gens-là se posent pas la question. Ils vont chercher un véhicule plein, camionnette pleine grandeur, puis c'est réglé.
Cela dit, il faut dire que le choix dans les camionnettes pleine grandeur, il y en a pas mal. Dans ce cas-ci, cabine double, cabine d'équipe, benne de 6 pieds et demi, benne de 5 pieds et demi, même qu'il y a sur certains modèles, benne de 8 pieds. Il y a de la place en masse, beaucoup de choix. Et là, je parle seulement du Tundra à moteur à essence, parce qu'il y a un Tundra hybride.
Tundra hybride.
Qui est essentiellement rupture de stock, là. Donc, tu l'as essayé.
Moi,
je l'ai essayé.
Ça marche, là.
Ben, c'est surtout qu'il ajoute de la puissance. Plus
il ajoute de la puissance.
La
exactement. Et ça réduit la consommation. Et on a même le son du moteur qui passe par les haut-parleurs de
l'auto. Ah oui, qui est remanié.
Qui ajoute. Et puis c'est drôle parce que de dehors, c'est beaucoup plus discret qu'en dedans. Toi, en dedans, tu dis, mon Dieu, je vais réveiller quelqu'un.
Qu'est-ce qui se passe?
Dehors, il dit, non, c'est ça va, là. Mais on dit à la blague, le e-Force, le
i-Force Max,
mais qui est un 6 maintenant, qui n'est plus un 8.
Ouais, 6 biturbo de 3,5 litres. Déjà, de base, écoute, 389 chevaux, 479 livres-pieds. Je sais, c'est pas rien, là. Personnellement, sans être un expert du travail de chantier en pick-up, je vois pas qui pourrait avoir besoin de plus de puissance que ça dans une camionnette d'une demi-tonne. Détail, parce que c'est un moteur biturbo, on fait quand même le plein au régulier. Faut pas se faire des peurs, parce que beaucoup de fabricants mettent un turbo, pouf, passe au super, parce qu'il y a la compression et tout le reste. La cylindrée est jumelée à une boîte automatique à 10 rapports au début, j'avais des préjugés, mais j'étais un petit peu en mode « on va voir ce que ça donne ». Finalement, après l'essai, écoute, la combinaison fait mouche. Moi, j'étais convaincu, les changements de rapport se font au bon moment.
C'est
un équilibre.
Puis c'est une grosse amélioration. Là. Le Tundra,
ben oui,
on s'entendra.
Ça,
là, le Tundra avait besoin... C'était
15 ans de retard à rattraper.
Ou on le rénove ou on le tue. Là,
ouais.
Parce qu'il n'y avait plus, c'est ça, 15 ans. Là. Avec 15 ans, c'est une éternité. Là.
Alors là, Ford fait des nouvelles camionnettes aux 2 ans, quasiment. Au 18
exact.
Mois
alors là, on a quelque chose qui est à la page. Là,
bonne mécanique. Bon, bref, tout va très bien. J'ai juste été un peu déçu par la consommation à 13,5 litres au 100 km quand on fait rien d'autre que de l'autoroute. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu intense, surtout que je l'ai eu à
1,15 litres. Si tu étais seul à bord, tu traînes à rien. Là.
Exactement. le mode aérodynamique, je me penchais sur mon volant pour pas prendre trop le vent. Puis j'aurais préféré un peu mieux là-dessus.
Bon. Cela dit, le hybride enlève à peu près 1,5 litres au 100.
OK, bon.
On va être à 11 et des prunes, là, nous, l'essai qu'on a fait la journée où on était au Tayron, on était au Texas.
C'était à San Antonio, non?
C'était à San Antonio, effectivement, où on le fabrique.
Donc,
on roulait à 11 et des poussières là, au 100.
Ouais. Pour le reste, la conduite, écoute, c'est incomparable par rapport au modèle précédent. Suspension en ressort à l'arrière, ce qui fait une grosse différence. Il y a encore un essieu, mais quand même. Le châssis est renforcé de bout en bout. La conduite beaucoup moins sautillante, peu importe les nids de poule. C'est parce qu'il y a juste ça maintenant à Montréal, les nids de poule.
Il y en a beaucoup.
Partout au Québec, d'ailleurs aussi, je devrais dire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les routes au Québec, mais aïe, aïe, aïe.
En fait, le réseau routier aurait dû être fait il y a 30 ans.
On a sauté une génération.
C'est
un peu malheureux.
Et là, maintenant qu'il est trop tard pour le restaurer, ben, il faut le refaire. Et là, tu sais, le pont-tunnel, il y en a pour quoi, 10 ans?
Ça va être long, ça.
Ça va être long, là. On est en train de tout arracher, là. Je suis passé hier, là.
Oui, et on le ferme d'un sens ou dans l'autre la plupart du temps.
Exact.
Dans ce genre de contexte-là, et là, je vais faire un super lien, il y a quelque chose de bien à bord du Tundra qui va vraiment vous divertir quand vous allez être pris dans le trafic. C'est l'énorme affichage tactile de 14 pouces, là, qui est dans la console, au centre du tableau de bord. Écoute, il est tellement large que ça en est rendu pas facile d'aller chercher les touches tactiles, tu sais, au fond à droite, là, parce que c'est vraiment rendu chez le passager, puis il y a l'espèce de méga console entre les deux sièges qui est gigantesque. Bon, écoute, je critique, mais dans le fond, ça vous donne une idée de la grandeur de la patente, puis c'est vraiment bien ficelé. Pour une fois, l'interface logicielle est bonne, les touches sont aux bonnes places à passer.
Et on a gardé quelques boutons.
Et on a gardé les boutons en dessous, effectivement, qui permettent de t'as une roulette pour le volume, comme l'affaire la plus naturelle du monde. Donc, étonnamment fonctionnel, ce système-là. Moi, je m'attendais à rien. Mais ça, encore une fois, ça a été une belle surprise. On a CarPlay sans fil, mais même le système de base là, intégré est intéressant. La navigation récupère sur une base régulière, quand on le connecte à un réseau Internet, des informations qui viennent de Google. Donc, c'est vraiment... La cartographie est pas mal tout le temps à jour.
Ouais, t'es en temps réel.
Exactement. Ouais. Donc, clairement, là, Toyota a fait ses devoirs. Le Tundra, bon, clairement, ne va pas subir le même sort que le Titan chez Nissan. Et ce bon... En avant, fait en 2022, est vraiment intéressant. Remet ce véhicule-là au goût du jour. Je ne sais pas s'il va y avoir une version TRD à 800 chevaux, là, comme c'est la mode dans ce créneau-là.
Bonne question. Il va probablement avoir une version TRD parce qu'il y en a eu dans les versions précédentes.
Exact.
On va se garder ça pour l'an prochain, probablement, le temps de laisser le modèle faire son chemin pour la première année, mais généralement, c'est le cas.
Ça va être à suivre.
Ça va être à suivre,
il va
effectivement.
Être extra rugueux. Il va y avoir beaucoup de rugosité dans ce modèle-là. On en a
extra grit.
Exactement. Avec le gros voix, Benoît. Extra
si vous
grit.
Si vous êtes en Georgie, c'est que vous prenez plus de grit sur votre gravy.
Oui, ben c'est ça.
Mais ça, c'est au déjeuner, on parle d'autre chose. De mon côté, j'étais chez Porsche cette semaine, en fait, la semaine dernière, pour le Macan T. Là, vous allez dire, c'est quoi ça, le Macan T? En fait, si on regarde les modèles avec l'appellation T, pas les modèles T, parce que ça...
Modèle T, c'est une autre marque, une autre époque, plein d'autres choses, ouais.
Mais les modèles avec l'appellation T, la lettre T chez Porsche, c'est des modèles qu'on amène, en fait, qui sont les moteurs de base bien équipés. On l'a vu dans la 911, on l'a vu dans la 718. Dans le Macan, pour vous donner une idée, c'est un modèle qui est... sous la Macan S, qui coûte 70 000 $, le Macan T coûte 66 000 $. Et c'est le moteur 4 cylindres 2 litres de base qui fait 261 chevaux et 295 livres pieds de couple avec la transmission automatique à double embrayage qui se trouve dans le véhicule. Tous les Macan, évidemment, comme tous les Macan, la transmission 4 roues motrices est de série. On peut quand même atteindre le 0-100 avec le 4 cylindres en 6,4 secondes, ce qui est pas mauvais.
Ben.
Mais on n'achète pas ça nécessairement pour la performance. Même si tout est là, ce qu'on veut, c'est plutôt profiter d'un équipement complet. Parce que très souvent, les équipements complets viennent avec le gros moteur, viennent avec tout ce qui va avec. Et évidemment, le prix est à l'avenant. Là, en le faisant avec l'équipement complet, mais le moteur de base, on est capable de ramener le prix à 66 000 $ au lieu d'un 95.
Il y a une catégorie d'acheteurs qui vont aimer ça.
Il y a une catégorie d'acheteurs. D'ailleurs, tous les modèles T fonctionnent très bien du côté de chez Porsche. Donc, c'est un indicatif intéressant de ce côté-là. Vous avez, tu sais, il y a des caractéristiques que les gens apprécient des modèles plus sportifs. Il y a le Porsche Active Suspension Management, le sport chrono, il y a le sélecteur de mode de conduite au volant, là, la petite roulette là, qui fonctionne bien. Il y a également des barres anti-roulis plus rigides, suspension pneumatique adaptative. Donc, vous avez quand même les caractéristiques haut de gamme qu'on retrouve dans les modèles. Bon, et il y a une catégorie infinie d'options, évidemment, parce qu'on est chez Porsche.
On peut faire modèle
donc,
prix,
le 66 000, je vous modifie d'en trouver un à ce prix-là. Calculez qu'en moyenne, les gens qui achètent une Porsche mettent autour de 20 000 $ d'options. mettons.
Ah oui?
Ça, c'est une bonne moyenne. Moi, j'avais les roues 20 pouces sur le modèle que j'avais à l'essai. Les deux grandes améliorations, je dirais, là, d'un point de vue dynamique par rapport à la Macan de base, parce que c'est pas la Macan de base, la T, on est au-dessus, c'est des amortisseurs adaptatifs de série puis un contrôle de traction qui est réajusté. Ça donne une conduite qui est plus sportive, qui nous amène plus proche des modèles comme la GTS, qui est devenue la Turbo, parce qu'il n'y a plus de Turbo, il y a une GTS maintenant, ou la Model S. Donc, on a les caractéristiques de conduite des modèles plus haut de gamme, mais avec le moteur de base. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de son, c'est clair.
Ouais, mais le 4 cylindres turbo est pas désagréable pour.
Il est pas désagréable. En fait, c'est le même genre de moteur que vous allez avoir dans la Audi A4, dans des produits. C'est le 2 litres turbo qui se trouve dans à peu près tous les modèles de la grande famille de Volkswagen. Mm-hmm. On remarque par rapport au modèle de base qui est plus agile, qui est plus vif, parce qu'on a mis des caractéristiques sportives. Le réglage de la suspension est plus sportif, mais c'est pas inconfortable. Donc, on perd pas du confort. On reste quand même dans un véhicule qui est extrêmement agréable. Les sièges sont les sièges des modèles plus sport, donc enveloppants. On fait vraiment corps avec le véhicule. Ça, c'est une des belles caractéristiques. Donc, on résume, meilleure tenue de route, meilleure suspension. C'est vrai que si vous allez dans les détails, un modèle comme la GTS va avoir des pneus Pirelli P0 Corsa. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller en chercher quand vous voulez remplacer. L'inconvénient de ces pneus-là, c'est qu'au bout de 12 000 kilomètres, c'est fini, il faut changer
faut
les pneus.
Conduire pour
et ça coûte une beurrée, croyez-moi. C'est des pneus, là, si vous êtes dans le 20 pouces, c'est à 500 $ et plus du pneu. Là.
Ouais.
Alors, c'est un pensez-y bien. Moi, honnêtement, comme on a un 4 cylindres, je vois pas la nécessité. Prenez du... C'est du Michelin qu'il y avait, là, qui était de très bonne qualité. Et pour tous les jours, là, vous allez en avoir amplement. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est qu'on vous offre les qualités sportives des modèles plus haut de gamme, qui ont des 6 cylindres, dans un modèle 4 cylindres. Donc, c'est un peu ça du côté du Macan, le T. Je pense que c'est fort intéressant. Il y a des réglages, comme les sièges sport étaient réglables en 8 positions.
Mm-hmm.
Donc, on se sent au volant d'un modèle beaucoup plus sportif. Oui, il n'y a pas autant de pédales, mais dans une utilisation au quotidien, là, franchement, à moins que vous ayez envie de vous écraser ça régulièrement sur l'autoroute, vous allez avoir les... Parce que c'est très rare, et c'est un peu ça, puis c'est vrai dans tous les modèles de catégorie T, c'est qu'on va payer un peu moins cher. On va avoir des caractéristiques qu'on aime généralement dans le véhicule et qu'on peut pas aller chercher autrement que par les modèles les plus chers.
Ouais.
Et là, on l'offre ailleurs. Donc, c'est un petit peu ça. Et ça, c'est intéressant de ce côté-là. J'ai bien aimé ça.
Oui, monsieur.
Alors voilà, ça termine notre émission de cette semaine.
Qui
était chargé malgré tout. Ouais. La semaine prochaine, tiens, j'ai laissé quelque chose de beaucoup plus tranquille cette semaine. Je me promène en Toyota, Toyota Venza. Mais j'ai quand même bien aimé. On comparera nos notes parce que ce que j'ai aimé du véhicule, c'est le fait que l'hybridation donne à la fois une très bonne économie de carburant et vous avez un bel espace en dedans. C'est un châssis de RAV4. Des gens qui se disent, ça ressemble à quoi? C'est le même châssis que le RAV4, mais plus doux à rouler, plus confortable.
Plus familial dans le format.
Plus familial. Puis surtout, tu sais, le RAV4, il y a un côté camion dedans. Mm-hmm. Ça, c'est un côté plus multisegment, plus utilitaire que vous allez probablement apprécier.
On comparera. Je suis allé à New York en famille avec...
Voilà, on pourra comparer nos notes. Tout, tu vas nous rouler quoi la semaine prochaine?
C'était pas mal ça, mon plan, parler de Venza.
Bon, ben, on pourra comparer nos notes.
On pourra,
ajouter un modèle. Je vais avoir d'autres choses. WRX aussi que je vais avoir la semaine prochaine. On pourra parler de ça. Alors, passez une bonne semaine, puis soyez prudents. On se reparle la semaine prochaine. Salut.
C'est 23.